Oui, je vais inviter le pasteur Vin de venir pour la parole, la lecture de la parole de Dieu. Levez-vous aussi pendant que vous ils sont là. Ésaïe 9, 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes des grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car un joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévoré par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner l'empire à l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Et je voudrais donner mon témoignage et parler de l'espérance. Pour vous dire vrai, j'aime pas donner mon témoignage. Je le trouve un peu redondant. Et une grande partie de ma vie, c'est l'espérance. Surtout dans cette saison de Noël où il y a cette pensée de l'espérance que Dieu a amenée sur la terre en chair. Ah, j'ai trouvé personnellement, à cause de ce que Christ a fait, j'ai l'espérance à cause de la fin de l'histoire, parce que je sais avec certitude que quand je mourrai, comme le Saint-Esprit me l'a convaincu, je passerai l'éternité avec Jésus. Et ça me donne une grande espérance pour cette fin. Et c'est la vie de chaque jour, vivant dans ce monde déchu, que je peux des fois lutter avec cette espérance quand il y a les rêves, les aspirations et les désirs qui ne se viennent pas à vie. Quand tu es un parent, des fois fatigué parce que tu travailles dur et beaucoup de choses et la vie devient difficile et tu commences à te poser la question où se trouve cette espérance que nous sommes supposés avoir. Et pour moi, de plus le temps passe, je reviens à cette histoire que faisons partie de cette histoire. Il y a un commencement, il y a un milieu, il y a la fin. Nous connaissons la fin. Nous connaissons la fin de cette histoire. Et quand je me souviens de cela, quand je me souviens qu'au milieu de cette histoire où je suis dans la guerre, où il y a l'ennemi vient pour détruire, voler et tuer, où il fait tout pour m'éloigner de Christ. Mais Christ a dit que je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et je me presse sur ça et sur sa parole. Laissez-moi juste lire. Le Père, Dieu qui nourrit les oiseaux, n'as-tu pas plus de valeur que ces oiseaux? Et pourquoi devait-être inquiété? Et considérer les fleurs et comment Dieu les habille, comment Dieu les. Et Salomon n'avait même pas été dans sa gloire, n'avait pas été aussi habillé que ces fleurs que Dieu a créées. Alors je pense que c'est lui qui prend soin des oiseaux, des fleurs qui sont dans les champs. Et quand je me souviens par rapport à moi-même et que je l'appartiens, il est avec moi, il me poursuit. C'est là où l'espérance renaît. Parce que c'est un Dieu que ce Dieu que je suis, et c'est lui qui me poursuit, qui prend soin de moi, qui se soucie de moi, qui... Il prend soin des oiseaux, des fleurs, et qu'en est-il de moi? S'il vous plaît, Église, restez debout alors que je vais prier. Alors Jésus, nous venons devant toi maintenant. Nous te remercions parce que tu es la lumière du monde, que tu nous donnes l'espérance, que tu restaures notre espérance, que tu renouvelles notre espérance, et nous avons besoin de cela aujourd'hui. Quand nous pensons à ce qui se passe à Hong Kong les derniers jours, quand nous pensons à la persécution qui se fait dans des endroits comme Nigeria, quand nous pensons à des guerres qui ne finissent pas en Ukraine et à travers le monde, et beaucoup de vies sont perdues, et dans cette tension, nous pouvons perdre la foi, et quand nous devons aussi penser encore à tous les cadeaux de Noël que nous devons acheter et toutes les choses. Et Jésus, nous savons que les mariages brisés ici, les enfants qui sont si loin de toi, mais toi, tu es la lumière du monde. Puisse ta lumière luire en nous, sur nous et au travers de nous, alors que je vais prêcher ta parole. Donne-nous l'espérance, cette espérance que nous avons connue quand tu nous as sauvés. Renouvelle nos forces aujourd'hui, au milieu de toute cette, au milieu de toutes ces ténèbres. Puisses-tu luire, et nous sommes si reconnaissants envers toi, et c'est en ton nom que nous prions, Jésus. Amen. Alors, Église, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vin et je suis l'un des pasteurs ici à Willingdon. Si c'est votre première fois, soyez particulièrement les bienvenus alors que nous entrons tous dans cette saison. Vous avez vu comment les enfants étaient en train d'agir. Comment ils se sont déguisés à Marie, Joseph, on a vu, comme Jésus, l'enfant. Et quand vous grandissez dans l'église, Marie souvent arrivait sur un âne, mais il n'y avait pas d'âne aujourd'hui. Je vais m'engager pour un âne l'année prochaine. Et alors, chaque année, cette période, saison de l'Avent, rejoint précisément là où nous sommes, dans l'entre-deux. Chaque année, ça nous ramène exactement là où nous sommes, ici, en ces moments, en ces lieux. Ça nous rencontre au milieu, parce que l'Avent signifie l'arrivée, c'est la saison où les chrétiens ralentissent, ou devraient ralentir, où nous levons les yeux, nous levons les yeux, où les chrétiens lèvent les yeux, se souviennent de qui nous sommes, un peuple qui attend. Mais quand on attend, on n'attend pas avec ennui, pas avec incertitude, mais on attend avec une certaine espérance. L'Avent est le rappel, c'est la saison et c'est le rappel que Dieu entre dans les ténèbres. Il se tient, ça ne veut pas dire qu'il ne se tient pas à distance. Il n'attend pas que le monde se nettoie de lui-même. L'Avent déclare que notre Dieu s'approche. Et quand il vient avec espérance. L'Avent ne consiste pas seulement à compter les jours jusqu'à Noël. L'Avent, c'est l'arrivée de la lumière du monde. C'est lui qui brise le désespoir, c'est lui qui apporte la joie où elle a disparu. Il est celui qui transforme la peur en paix. Chaque semaine, vous allez voir une bougie allumée Et chaque bougie que nous allumons est une déclaration, c'est une espérance que les ténèbres ne gardent pas, que la nuit ne dure pas et que la lumière vient et qu'elle est venue. Et c'est pourquoi l'Avent est passionnant. Parce qu'il nous dit pas seulement que Jésus est venu, il nous dit que Jésus revient. Nous ne nous souvenons pas seulement d'une histoire, nous nous appuyons sur une promesse. Et comment elle va être accomplie aujourd'hui? Alors que nous ouvrons le livre d'Ésaïe 9, 1 à 6a, nous entrons dans l'une des plus belles images de l'espérance de l'Avent dans toute la Bible. Parce que Ésaïe nous montre à quoi ressemble l'espérance, pourquoi l'espérance est importante et comment cette espérance nous conduit à Jésus, l'enfant qui fut promis, le roi qui est venu et le sauveur qui reviendra encore une fois. Alors, trois points à partir de ces passages aujourd'hui. L'espérance décrite, l'espérance proclamée et l'espérance arrivée. Laissez-moi répéter cela, l'espérance décrite, l'espérance proclamée, l'espérance arrivée. Avant de nous plonger dans Ésaïe 9 pour ressentir ces ténèbres, nous devons ressentir ces ténèbres. Nous devons, pour ressentir ces ténèbres, on doit revenir vers Ésaïe 7 et 8. L'histoire commence vers 734 avant Jésus-Christ, quand cette histoire devient une histoire en elle-même. Qu'est-ce qui se passe ici? La Syrie et Israël marchent vers Jérusalem et la Syrie s'apprête à faire l'invasion sur Juda. Et qu'est-ce qui se passe? La Syrie et Israël marche vers Jérusalem et le roi Akaz est terrifié. Ésaïe dit que son cœur fut agité comme. Il dit qu'il était terrifié. Il avait tellement peur des Syriens. Dans ce passage, il dit dans cette. Il dit que. Il fut agité comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. C'est à peu près ça la description de sa peur. Dans cette peur, Dieu envoie Ésaïe avec un message simple. Prends garde, dans Ésaïe 7,4, prends garde, reste tranquille, ne crains rien. Et c'était la parole de Dieu envers le roi. Alors Dieu offre même à Akaz, il va même plus loin pour le rassurer. Il lui offre même le roi de Juda, il leur offre un signe. Il lui demande n'importe quel signe que tu veux pour le fortifier. Quel que soit que tu veux, je vais te le faire, je vais le faire pour te fortifier, pour te montrer que je suis avec toi. Mais vous savez ce qui se passe? Akaz refuse. Il dit non, je ne veux pas de signe. Pourquoi, vous savez? Parce qu'il a déjà choisi de se confier à la Syrie au lieu de se confier à Dieu. Et au début, il semble qu'Achaz ait fait le bon choix, parce que la Syrie écrase la Syrie et Israël. Et quand on va vers Israël 8, ça révèle la vérité. La nation à laquelle Akaz s'est fié deviendra l'instrument même de la discipline de Dieu envers Akaz et l'empire de Juda. Ésaïe décrit l'invasion assyrienne comme une inondation déchaînée qui s'élève jusqu'au cou de Juda, dans le chapitre 8, 7 à 8. Il décrit cela comme l'invasion, comme une inondation déchaînée qui s'élève jusqu'au cou. Juda ne se noyera pas complètement, mais il allaitera. Puis Isaïe montre les ténèbres spirituelles sous-jacentes. Le peuple dans le chapitre 8, 14, 15, le peuple trébuche sur la parole de Dieu. Au lieu de chercher l'Éternel, il se tourne vers les médiums, les nécromanciens. Dans le chapitre 8, 19, le chapitre se termine par chapitre 8 se termine par l'une des images les plus sombres de l'Écriture. Dans Ésaïe 8, 22, il est dit ceci, les nations, ils porteront les regards vers la terre et voici la détresse, les ténèbres, et ils seront repoussés dans d'épaisses ténèbres. Et c'est comme ça que le chapitre se termine. C'est dans ce monde qu'Ésaïe 9 fait irruption. Un monde avec des ténèbres cherchant l'espérance au mauvais endroit. Et cela nous conduit maintenant à mon premier point, l'espérance décrite. J'ai une question. Avez-vous déjà souffert de l'insomnie? Ou vous êtes-vous réveillé au milieu de la nuit pour une raison quelconque et n'avez pas. Parce que la belle famille vient et vous n'êtes pas capable de vous rendormir, il est 3 heures. Et vous restez allongé dans le noir pendant les heures. Et vous savez, en ces moments, quand vous êtes là, allongé dans l'obscurité, la première lueur de lumière apporte un profond. Qu'est-ce que ça rapporte? Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte un certain soulagement, un profond soulagement. Pourquoi? Parce que les ténèbres sont finies et la lumière est venue. Une nouvelle journée commence. Fleming, Rutledge, il dit ceci, l'avant commence dans les ténèbres. Seule l'espérance ténèbres de l'avant peut percevoir la lueur d'une seule bougie. Et insister sur le fait que la lumière vient. Quand vous revenez, quand on revient à Ésaïe 9, verset 1, Ésaïe commence non pas avec un enfant, mais avec une condition. Et cette condition est les ténèbres. Lorsque nous ralentissons et nous essayons à l'intérieur, essayons à l'intérieur de l'histoire racontée en Ésaïe 7 à 9, vous sentez à quel point les choses étaient vraiment désespérées. Le roi Akaz n'était pas seulement effrayé, il s'est décomposé spirituellement. Au lieu de ramener Juda vers le Seigneur, il copiait les nations autour de lui, hein, essayait de faire les choses comme. Essayer de faire marcher. Si vous lisez l'histoire du deuxième livre de Rois, nous dit qu'il a même redessiné l'autel du temple, là où vous faites les sacrifices à Dieu, pour qu'il ressemble à un autel des Assyriens. Et dans Deux Rois, on dit il a tronqué l'adoration de Dieu vivant pour la. Il a troqué l'adoration des dieux vivants pour la survie, sa survie politique. Et le peuple a suivi son exemple. Au lieu de regarder à Dieu avec confiance, il regardait au dehors dans la panique. Pas étonnant qu'Ésaïe dise dans le chapitre 9, 2, qu'il marche dans les ténèbres et habite le pays de l'ombre de la mort. Ce n'était pas seulement des ténèbres politiques, c'était des ténèbres aussi spirituelles, des ténèbres dues à un leadership défaillant, des ténèbres dues à une confiance mal placée, des ténèbres où les gens ne savaient pas vers qui se tourner. Et c'est dans ces ténèbres épaisses et accablantes que Dieu prononce une parole de grande espérance à travers Ésaïe. Chapitre 9, verset 1, il dit ceci, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, de l'autre côté du Jourdain, le territoire des gentils. Le premier mot que vous allez voir, que nous allons souligner, afin que vous puissiez le comprendre, Et beaucoup ont considéré ces mots comme étant les mots les plus puissants de toute la part, dans toutes les Écritures. Au milieu de ces ténèbres où il y a désespérance, où personne ne pouvait intervenir, apporter l'espérance et sauver, Dieu est venu agir. Et ces mots nous rappellent l'arrivée de Dieu, que l'arrivée de Dieu change toutes choses. Dieu est venu dans les ténèbres, il a apporté le secours. Et c'est ce que Ésaïe est en train d'annoncer dans le chapitre 9:1. Quand les ténèbres semblent définitives, Dieu promet une aube à venir et qu'elle ne viendra pas par un roi comme Akaz ou un empire comme la Syrie, elle viendra de Dieu lui-même. C'est ça. D'où les ténèbres viendront. Les ténèbres sont réelles, mais les ténèbres ne sont pas finales. Ésaïe montre que Dieu renversera ce que le peuple a créé. Ils ont choisi les ténèbres, ils ont rejeté le Seigneur, mais il ne les abandonnera pas. Il déferait ce qu'ils avaient attiré sur eux-mêmes. C'est pourquoi dans le verset 1, il dit ceci, ils ne régneront pas au passé, comme si c'était déjà arrivé. Parce que lorsque Dieu parle, le futur est aussi certain, le futur est aussi certain que le passé. Puis Ésaïe nous rappelle, dans le verset 1, les temps passés, c'était comme ceci. Je vais vous montrer une carte. Et là où nous avons souligné la tribu du Nord, Zabulon et Nephtali, pourquoi c'est important cette image? On parle de Zabulon et de Nephtali parce que l'attaque vient du nord et va vers le sud. Qu'est-ce qui se passe ici? Zabulon et Nephtali sont les premiers à être envahis. Alors quand Ésaïe parle au verset 1, il est en train de dire comme l'invasion a été foule et complète, avec cette histoire remplie de peine. Galilée avait toujours été conquis, rempli de l'influence des gentils. Elle était regardée avec mépris par Jérusalem. Quand il y a eu toutes ces invasions, ces endroits n'étaient plus purs. Et c'est exactement pourquoi Ésaïe est en train de souligner cela. Il dit de Zabulon à Nephtali vers Galilée, le Galilée des gentils. C'est l'endroit où tous les gens étaient. Et c'est l'endroit précis où Dieu va commencer son travail. L'endroit où vous n'aimez pas regarder, c'est là où Dieu va commencer. Cette région qui avait été jugée en premier, c'est celle-là même qui va voir la lumière en premier. C'était des temps passés. Quand il y a eu l'invasion, mais les temps à venir, dans verset 1, leur futur ne ressemblera pas à leur passé. Les lieux même marqués par la honte et la destruction, Dieu les a rendus ou les rendra plus glorieux. Ce sont les terres Zébulon, Naphtali, où Jésus commence son ministère. La lumière est venue. Et si on va en Matthieu 4, 13, 14, chapitre 4, 13, 14 et 17, il est dit, et ayant quitté Nazareth, c'est Jésus, il vint demeurer à Capernaum, sur le bord de la mer, dans le territoire des Zabulon et des Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des dieux est proche. Ésaïe a expliqué l'espérance, ce que Dieu fera où sa lumière fera irruption, mais il ne s'arrête pas là. L'espérance n'est pas seulement décrite, elle est proclamée. Après avoir montré l'aube, Ésaïe l'a proclame maintenant avec certitude. Et cela nous conduit à notre second point, qui est l'espérance proclamée. Quand il a commencé, quand vous passez au verset 2 à 5, il faut se souvenir qu'Ésaü nous montre trois images de ce que la lumière de Dieu accomplit. Ce n'est pas une prédiction, c'est une proclamation. Et dans le verset 2 à 5, il nous montre ces trois images de ce que la lumière de Dieu accomplit. Quand il entre dans les ténèbres, chose qu'il accomplit par lui-même, sans l'aide de quelqu'un, de qui que ce soit. Quelles sont ces trois images? La première, c'est la lumière remplace les ténèbres, la joie remplace la tristesse, et la liberté remplace l'oppression. Commençons au verset 2, où il est dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, et ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. Ésaü parle à des gens qui vivaient dans les réelles ténèbres, oppression, peur, échec, toutes ces choses. Ce sont les mêmes endroits qu'il a décrits dans le chapitre 7 et 8. La Galilée, Nephtali, Zabulon, des terres écrasées par l'Assyrie et des cœurs accablés de désespoir. Remarquez comment il répète le mot ténèbres. Marcher dans les ténèbres, habiter le pays de l'homme de la mort. Il veut que nous sentions à quel point ces ténèbres étaient lourdes. Et puis, en plein milieu de ce désespoir, il annonce une grande lumière. Pas une lueur, pas une étincelle momentanée, mais une grande lumière assez forte pour briser l'obscurité et redonner la vie encore une fois. Ce qui est beau, c'est à quel point c'est personnel. Le peuple a vu et la lumière a resplendi. L'espérance que Dieu donne n'est pas abstraite. C'est une espérance qui vient à nous. Elle change notre vision et notre marche. C'est le cœur de la proclamation d'Ésaïe. L'espérance entre dans les ténèbres même que nous ne pouvons pas réparer et commence à les transformer. Alors que nous passons au verset suivant, Ésaïe va montrer ce que cette espérance fait réellement, comment elle change les personnes, les communautés et l'histoire, et même l'histoire. C'est ce que signifie que l'espérance qui est apportée et proclamée, ce n'est pas seulement quelque chose dont on parle, c'est quelque chose qui agit. Ça agit vraiment. Quand vous allez au verset 3, il est dit, tu as multiplié cette nation, tu as accru sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Et quand il y a la moisson, le fermier est rempli de joie. Réfléchissez, Ésaïe parle de renversement. Le peuple qui était opprimé, effrayé et vivait dans l'obscurité se réjouit maintenant. Cette joie ne vient pas de sa propre force, elle ne vient pas de deals politiques ou d'alliances astucieuses. Cette joie vient parce que Dieu agit. Il a multiplié la nation, il a accru son bonheur et lui a donné une raison de célébrer. Non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que Dieu est plus grand que les problèmes. Et puis au verset 4, 9-4, chapitre 9:4, il dit, car le joug qui pesait sur lui, la barre qui chargeait son épaule, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les as brisés comme au jour des Madians. Ésaïe nous donne ici une autre image verbale de l'oppression que l'Assyrie a placée sur les épaules de Juda. Et cette image est celle d'un joug. une poutre en bois passée sur le cou ou les épaules des deux animaux, les faisant travailler ensemble, les forçant de marcher, de travailler ensemble. Actuellement, c'est une image claire de l'oppression, du fardeau du travail et de la servitude, d'un maître qui est cruel. Et puis Esaïe ajoute une référence qui aurait sauté aux yeux de son auditoire qui l'écoutait. Il dit, comme au jour des Madians. Il y a cette image et puis il y a cette référence au jour des Madians. Soudain, les textes passent de la métaphore à l'histoire. Quand il parle des Madians, il renvoie au livre de Juges 6 et 7, l'histoire de Gédéon et des Madianites. Voyez-vous, à cette époque, dans le livre de Juges 6, Israël vivait sous l'oppression. Les Madianites avaient détruit leur culture, brûlé leur ville et laissé le peuple se cacher dans les cavernes parce qu'ils étaient terrifiés. Ils vivaient sous un joug de peur et de défaite, tout comme Juda sous l'Assyrie à l'époque d'Ésaïe. C'est ça la comparaison qu'il est en train de faire. Puis Dieu appelle Gédéon, le héros le plus improbable que l'on puisse imaginer, parce qu'il pouvait prendre un héros, quelqu'un qui était fort, puissant, qui savait ce qu'il faisait, mais au lieu de cela, il a pris un fermier, se cachant de ses ennemis. Et Dieu dit à Gédéon, dans Juges 6,14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon avait préparé une grande armée, il amène beaucoup de gens. Mais Dieu lui dit, c'est beaucoup de gens. Avec seulement 300 hommes, avec des trompettes, des torches et la puissance de Dieu, Gédéon bat complètement les Madianites, il les détruit. Le joug est brisé, l'oppresseur est vaincu et Israël expérimente une liberté qu'il n'aurait jamais pu obtenir par lui-même. C'est ça exactement ce qu'Ésaïe veut faire comprendre à Juda. Quand il dit comme au jour des Madians, il ne pointe pas seulement vers une victoire historique, il nous donne une image de l'espérance aujourd'hui. Pas seulement pour le passé. La même lumière qui vient avec Jésus, c'est lui qui a déjà brisé tout joug du péché et de la peur dans nos vies à cause de sa mort sur la croix. Ésaïe continue dans le verset 5, dans le chapitre 9, il dit, car toutes les chaussures qu'on portait pour combattre, et tous les vêtements qu'on roulait dans le sang seront livrés aux flammes, serviront de pâture au feu. Ça, c'est la façon dont je décrirais ceci. Vous savez, en temps de guerre normale, disons deuxième guerre, première guerre ou deuxième guerre mondiale, à n'importe quelle guerre que vous pouvez penser, normalement, quand la guerre est finie, les soldats prendront leurs vêtements, leurs tenues de guerre. Ils vont les nettoyer, les plier et les ranger leurs vêtements de combat pour la prochaine bataille. Parce qu'ils savent qu'il y en aura une autre. Ça pouvait être des années qui vont venir après. Il y aura une autre bataille. Bataille après bataille, le cycle continue. Se battre, prendre ses tenues, les laver et les garder. Mais Esaïe donne une image différente. Il dit, lorsque Dieu intervient dans les ténèbres, ses vêtements ne sont plus rangés, elles sont brûlées. Pourquoi? Parce que l'espérance que Dieu apporte, ne met pas la guerre en pause et il y met fin, à la fois physiquement et spirituellement. Vous n'avez plus besoin de ces vêtements. Et nous ressentons quelque chose aujourd'hui. Pensez à la Seconde Guerre mondiale ou peut-être la guerre en Ukraine ou ailleurs. La peur, la destruction, les familles déchirées. Et puis enfin, la guerre prend fin. Un soulagement, immense s'installe, les soldats rentrent, les familles se retrouvent, la joie éclate. C'est comme une lumière qui perce une longue obscurité. C'est ce que les gens d'Ukraine espèrent. Mais même après la victoire, la vie ne revient pas instantanément à la normale. La reconstruction prend du temps. Les villes, les économies, les familles se reconstruisent lentement, très lentement. La guerre est vraiment finie, mais la restauration est un processus. C'est ça l'espérance qu'Ésaïe décrit au verset 5, 3 à 5. Dieu brise l'oppression, restaure la joie et commence à rebâtir ce qui a été brisé. Son espérance n'efface pas toujours instantanément nos luttes, mais elle nous donne un fondement solide et un avenir promis. Et maintenant, Ésaïe nous amène au cœur de cette espérance. Ce n'est pas seulement quelque chose que Dieu pourrait faire, c'est ce que Dieu fera par son Messie qu'il va envoyer. L'envoyer. Au verset 6, la promesse maintenant devient personnelle. L'espérance n'est plus seulement expliquée ou proclamée. L'espérance est arrivée. Et c'est ça notre troisième et dernier point. L'espérance arrivée. Alors, nous avons vu ce que cette espérance produit, une joie débordante, un joug brisé et la fin de la guerre. L'espérance est proclamée spirituellement et physiquement. Il a expliqué l'espérance, mais le peuple de Dieu a besoin plus qu'une explication. Il avait besoin de l'espérance, que l'espérance revête la chair et entre dans ses ténèbres. Et c'est exactement là que Ésaïe nous conduit ensuite, dans le verset 6. L'espérance passe d'une proclamation à une personne. Mais avant de nous plonger dans ce verset 6, nous devons faire une pause, quelques secondes, un moment où nous rappeler ce que la Bible veut dire quand elle nous parle d'espérance. Parce que l'espérance biblique est très différente de la façon dont nous l'utilisons aujourd'hui. Dans notre culture, dans la société, quand on dit espérer, cela signifie généralement une incertitude. Je pense que quand le monde utilise le verbe espérer, ça veut dire qu'il y a une forme d'incertitude. Pensez quand on dit j'espère que ça va marcher. J'espère me sentir mieux bientôt. J'espère que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. N'y a-t-il pas une forme d'incertitude, n'est-ce pas? Ce genre d'espérance est fragile. Il vacille. Ce n'est... Si on devrait voir, c'est une espérance, c'est un vœu pieux, mais l'espérance biblique, c'est la confiance, c'est l'attente, c'est l'assurance ferme que Dieu fera exactement ce qu'il a promis. Et avec cela à l'esprit, Ésaïe décrit l'arrivée de cette espérance en chair et en os. Il dit dans Ésaïe 9, 6, et il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ça, c'est l'accomplissement de toute l'espérance expliquée dans le point 1 et proclamée dans le point 2. Les ténèbres étaient réelles, le joug était lourd, la joie semblait lointaine, et maintenant l'espérance arrive. Non pas par un roi humain, une stratégie politique, mais par un enfant, le propre fils de Dieu. Et souvenez-vous de la fin d'Ésaïe 8 dans les ténèbres épaisses, quand la nation a rejeté Dieu et s'est précipitée vers les idoles et la peur. Dieu a quand même promis de préserver un reste, un peuple qui s'accrocherait à sa parole quand tout s'effondrait. Et l'arrivée de cet enfant est Dieu qui tient cette promesse. Il ne sauve pas seulement une nation, il soutient un peuple fidèle et l'amène à la lumière. Les espérances terrestres échouent parce qu'elles reposent sur des personnes et des circonstances qui changent constamment. Les alliances tombent en morceaux, les oppresseurs se révèlent. Les guerres se terminent, mais une autre guerre peut même venir. Même les meilleures relations peuvent, des fois, finir par le découragement. Mais Dieu brise le joug ultime. Le péché, la mort et tout pouvoir qui nous écrase. Parce que Jésus est la lumière qui ne s'éteint jamais. Le roi dont le règne n'a pas de fin. Et cette espérance n'est pas, dont on nous parle, cette espérance n'est pas seulement pour Israël. Elle est aussi pour nous, pour tous les peuples. Toute personne qui est ici, même si c'est la première fois, quiconque qui a marché dans les ténèbres, la peur, le chagrin, l'oppression, peut avoir cette lumière. Vous pouvez voir cette lumière par la puissance du Saint-Esprit. Quiconque aspire à la paix, à la restauration, peut recevoir cette lumière à travers Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Parce que cette espérance n'est pas seulement une information. Elle nous forme, elle nous remodèle, elle remodèle nos désirs. Quand Ésaïe montre un monde rempli de joie et de cette lumière qui entre dans les ténèbres, il y a la joie, il y a la paix qui règne. Et il nous appelle. Ésaïe appelle que nous devons entrer dans ce monde maintenant. Pas tard, maintenant. Quand on voit la beauté du roi à venir, les choses moindres perdent leur attrayance, leur attrait. Les péchés perdent leur éclat. Dieu ne nous donne pas une meilleure espérance ou un meilleur roi. Et quand l'amour change et notre vie, nos vies suivent. Mais laissez-moi terminer avec cette image. Vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les hommes étaient allés à la guerre, il y avait des familles qui attendaient jour après jour des nouvelles du front. Je veux que vous imaginiez une femme et ses enfants assis à la table de la cuisine quand il y a une lettre qui arrive, un militaire avec un officiel du gouvernement avec une lettre. Avant qu'elle ouvre cette lettre, elle pense peut-être que son mari est mort dans la bravoure à la guerre. C'est probablement ce qu'elle est en train de penser. Alors qu'elle ouvre cette enveloppe officielle du gouvernement, même si elle n'est pas sûre de ce qu'elle va voir dedans, puis les mots la frappent. Ces mots disent la guerre est finie. Ton mari, il rentre à la maison. Et en ces moments précis, tout change. La guerre est terminée. L'espérance est arrivée. La paix est réelle. La victoire est acquise. Mais elle n'a pas encore vu son mari. Il n'est pas encore venu à la maison. Il y a encore pendant ce temps, pendant cette attente, elle ne s'assoit pas seulement là en train d'attendre. Dans ces moments d'attente, il y a encore des repas à préparer, des enfants à coucher, des jours à attendre, des choses à faire. Elle vit avec cette belle tension que la guerre est vraiment finie, mais elle aspire toujours au moment où elle pourra serrer dans ses bras quand il va venir la personne qui l'aime le plus. C'est ça l'avant. La victoire est réelle. Christ est venu. L'espérance est arrivée en la personne de Jésus. La bataille décisive contre le péché et les ténèbres a déjà été remportée. Mais nous attendons toujours qu'il franchisse la porte. Et quand il va entrer la porte de l'histoire une dernière fois, voudrais-tu venir le connaître? Alors nous vivons comme cette femme, comme cette famille, avec l'espérance parce que la guerre est finie, et avec le désir parce que c'est lui que nous aimons et sur le point de rentrer à la maison. C'est l'espérance d'Ésaïe 9, c'est l'espérance de l'avant, et c'est l'espérance qui nous tient ferme jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Jésus, nous venons devant toi maintenant, beaucoup d'entre nous, nous ne pouvons même pas imaginer que 2025 est fini. Mais encore, pour beaucoup d'entre nous, ça semble très ténébreux spirituellement et physiquement. Il y a des mariages qui ont besoin d'espérance. Que ta lumière luise, que les familles, les personnes qui ne connaissent pas quand est-ce que le prochain chèque va venir, avec toute incertitude de travail, que ta lumière entre, luise. Dans le chaos où il y a des tensions dans les familles, quoi qu'il se passe, où il semble juste être en joie plus, Seigneur. Renouvelle nos forces, sachant que la lumière est ici et qu'elle puisse luire en nous, dans nos vies, au travers de nous. Et Jésus, ceux qui ne te connaissent pas, qui sont ici pour la première fois, que ta lumière luise en eux, Seigneur. Qu'ils puissent connaître que l'espérance du monde est rien, est fragile, c'est un vœu pieux, et que l'espérance est seulement en toi, et cette espérance est sûre, et il y a une assurance. Montre-toi, révèle-toi, Seigneur, à toutes ces personnes. Alors Jésus, nous te louons parce que tu es la lumière du monde. Plus on te regarde, plus on regarde vers toi, tout change. Transforme nos cœurs par la puissance de ton esprit afin que tout ce qui va faner autour de nous et toi seul va demeurer. Jésus, aide-nous à vivre et à montrer cette lumière aux autres alors que nous vivons dans la tension, cette tension de ton attente, de ta venue. Donne-nous la force, renouvelle-nous et c'est en ton nom que nous avons prié, Jésus. Amen. Certaines choses avant que vous partiez, l'annonce, c'est que vous savez, pour les dernières années, on a été à travers un travail de avoir des mentors, préparer les mentors. Maintenant, Église, si vous cherchez un mentor pour grandir dans ta foi, et encourager, apprendre la parole, et si tu as besoin d'un mentor, besoin de rechercher quelqu'un, c'est le moment d'appliquer pour cela. Vous pouvez voir sur l'écran, il y a les liens. Si vous cherchez un mentor, s'il vous plaît, pouvez-vous vous lever alors que je vais prier pour la bénédiction avant de partir. La bénédiction vient de Révélation 21, chapitre 21, 23. Il est dit ceci. Et la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire des dieux l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Église, dans les ténèbres, sache que la lumière est avec toi, l'agneau de Dieu est avec toi. Que Dieu vous bénisse. On se revoit la semaine prochaine.